On démarre. Alors, je vous préviens, c'est un sujet qui n'est pas très simple et qui n'est jamais très agréable à traiter, même pour vous, mais je pense qu'il faut que vraiment les gens prennent conscience de ce qui se passe dans ce pays, à tous les niveaux, évidemment, parce qu'il se passe tellement de choses que c'est dramatique, en fait. Donc, le titre, c'est Pédo, savoir et se taire. Savoir et avoir malgré tout la décence de porter des criminels au sommet. Jack Lang se défend. Vous pensiez, Monsieur Lang, sans doute, être tranquille, que cette affaire serait enterrée, cette tribune que vous aviez signée en 1977, dont j'ai déjà parlé. Vous pensiez que les gens ne se souviendraient sans doute pas que vous avez fait partie de tous ces intellectuels qui ont signé, de façon à décriminaliser les rapports sexuels avec les jeunes et remettre en cause la notion de consentement chez les adolescents. Mais vous inquiétez pas, Monsieur Lang, En Marche s'en occupe. Et ils vont y consentir de plus en plus. Alors vous vous justifiez en disant, c'était une connerie, on était très nombreux à l'époque à signer ça. Nombreux. Vous tentez donc ainsi de vous dédouaner. Et puis c'était l'après 68, on était porté par une vision libertaire fautive. Ce n'est pas mon sentiment aujourd'hui, non, bien sûr. Et vous osez dire en plus sur Europe 1, je vous cite, moi, ça me révolte, d'autant plus que je l'ai connu comme collègue, monsieur Duhamel. Je suis professeur de droit comme lui. Et vous vous défendez d'avoir entendu ces rumeurs autour d'Olivier Duhamel, bien avant la révélation publique de cette affaire par Camille Kouchner, oui, la fille de M. Kouchner dans son livre La famille à Grande. Elle révèle que son frère jumeau était victime d'inceste par son beau-père, le politologue célèbre Olivier Duhamel, lorsqu'il avait seulement 14 ans. Et elle dit, je la cite, jamais je ne pardonnerai. Évelyne Pizier, la mère de Camille Kouchner, ex-femme de Bernard Kouchner, qui avait comme vous signé ce fabuleux document, avait donc été mise au courant des agissements de son époux sur son fils. Mais l'ex-femme de Bernard Kouchner avait préféré nier en bloc, comme c'est souvent le cas dans les familles, souhaitant plus que tout étouffer l'affaire. Ce n'était pas le cas de sa sœur cadette, Marie-France Pizier, très connue, et qui s'était confiée en 2008. L'actrice Marie-France Pizier, auteure et artiste engagée, bizarrement est décédée la nuit du 23 au 24 avril 2011, retrouvée morte dans sa piscine, coincée dans une chaise. Accident, paraît-il. Pour ajouter, monsieur Jack Lang, sur cette radio, je vous cite encore, aujourd'hui nous sommes en lutte les uns les autres contre l'inceste. Ah oui? Mais qui est en lutte? Vous? En lutte contre les atteintes à la pédophilie, les atteintes aux mineurs? Les atteintes à la pédophilie. Mais de quoi on parle? C'est révoltant. Et il se fait qu'un jour, il y a 50, 60, je ne sais plus, nous sommes une cinquantaine d'intellectuels à avoir écrit une connerie. Qu'est-ce que je dois faire? M'immoler devant où, vous? Je ne peux rien dire de plus qu'on a fait une connerie et basta. Ben voyons, basta. Et ainsi, vous pensiez mettre fin à tout débat sur votre position autour de l'inceste et du viol des enfants? Mais monsieur Lang, vous avez aussi défendu Woody Allen en 2018. Et ce n'était pas il y a 50 ans, c'était il y a 2 ans et demi. C'était hier. D'ailleurs, deux tweets en disent très long. Vous avez pris la défense de M. Woody Allen quand, de nouveau, le réalisateur américain était accusé d'abus sexuels sur sa fille adoptive, Dylan Farrow. Des accusations qui ont entraîné l'annonce par plusieurs acteurs du boycott de ses films, I Love You. Vous avez écrit, Monsieur Lang, dans un premier tweet, puis un second avec une photo de vous en compagnie de Woody Allen. C'était en 2018, Monsieur Lang. Interrogé par France Info, vous fustigiez les gens en parlant de harcèlement permanent qui vient de sa famille depuis 10, 20 ans. Vous savez, 10, 20 ans, ce n'est rien. Comparé aux victimes qui le vivent depuis 40 ou 50 ans sans jamais avoir de reconnaissance de l'État, de la justice, et qui se débrouillent comme ils peuvent. Je vais quand même pas prendre la défense d'un pédophile. Vous dites, ça prend un tour violent, brutal. Oui, c'est ce que vivent aussi les victimes, figurez-vous, monsieur Lang. Et d'ailleurs, vous vous gardez bien de tirer des conclusions sur l'affaire. Pour mémoire, dans les années 70, de très nombreuses personnalités de tous bords politiques ont demandé au nom de la liberté, paraît-il, que la loi permette aux adultes d'avoir des relations sexuelles avec des enfants. Une question d'époque, disiez-vous? 69 intellectuels français qui, aux côtés de l'écrivain Gabriel Mazneff et du romancier journaliste à Libération et membre fondateur du Front homosexuel révolutionnaire, les FAR, j'en ai déjà parlé, Guy Hockenheim, qui ont signé une tribune publiée le 26 janvier 1977. D'abord dans Le Monde, et puis aussi dans Libération, les journaux, pour défendre trois hommes incarcérés depuis plus de 3 ans pour avoir abusé sexuellement de mineurs de moins de 15 ans. Sur votre torchon, il était écrit « 3 ans de prison pour des caresses et des baisers, ça suffit » écriviez-vous. Et il demandait la relaxe des trois hommes au prétexte que les enfants n'avaient pas été victimes de la moindre violence, mais au contraire qu'ils étaient consentants. Oui, parce que, comme je l'ai si souvent expliqué, les enfants victimes de pédophiles ne subissent pas, très souvent ne subissent pas la violence, puisque ce sont des gens qu'ils connaissent, ils sont ce qu'on appelle en état de sidération, en état d'hébétement, et donc ne se défendront pas. C'est vouloir ignorer véritablement ce qu'est l'état de sidération. Alors certaines personnes non averties pourraient vous croire, même vous qui m'écoutez, sérieusement, est-ce que vous y croyez? Croyez-vous encore que la loi du consentement soit un hasard? Croyez-vous que les non-condamnations, pardon, en matière de pédocriminalité ou de pédophilie depuis des années, soit un hasard ou doutez-vous? Alors pour mémoire, je vais vous donner la liste des signataires, histoire que ce soit bien ancré dans votre tête et que vous compreniez comment ce pays en est arrivé là où il en est. Parce que tout commence aussi à cet endroit. Le 23 mai 1977, dans les pages Opinion du Monde, 80 intellectuels, dont vous, M. Lang, et vous, M. Kouchner, avez signé, et bien d'autres noms, comme Louis Aragon, fils naturel adultérin de Louis Andrieux, ex-préfet de police de Paris, devenu député franc-maçon, issu de la haute bourgeoisie protestante. André Glucksmann, qui entre à l'école normale tout en partant de rien du tout, qui se marie à Christine Lecoq-Bussy, philosophe, et qui enseignera quelques années à Lyon. Puis en 1966, il rentre comme attaché de recherche au centre national du CNRS. Lui, mange à tous les râteliers, marxiste, maoïtiste, il aura tout essayé. Et puis, il devient le pilier des nouveaux philosophes en publiant Les Maîtres Penseurs. Et puis, il va militer en faveur des dissidents soviétiques. Et le 27 mai 1977, l'émission littéraire de Pivot est consacrée à ces nouveaux philosophes avec un thème polémique. Les nouveaux philosophes sont-ils de droite ou de gauche? Et oui, le mouvement se fait connaître quelques mois plus tôt, lorsque Bernard-Henri Lévy, 28 ans, incarne dans les nouvelles littéraires. Ah non, mais ils les choisissent, t'assure, ils les choisissent vraiment bien. Et puis parlons de François Châtelet, français, parmi lesquels Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, philosophe, Roland Barthès, psychologue, non, philosophe, pardon. Simone de Beauvoir, qui a signé la féministe romancière, la première à avoir émis des idées nauséabondes du genre, la première étape annonciatrice nous menant vers les études de genre. Alain Robbe-Grillet, romancier cinéaste français, élu à l'Académie française, que du beau monde. Ensuite, il va aller réaliser des films qui vont osciller entre érotisme et sadomasochisme, oui, très connu pour être un adepte du sadomasochisme, comme sa femme, Catherine Robbe-Grillet. Jacques Derrida, encore un philosophe, en 1995, qui deviendra membre du comité de soutien de Lionel Jospin. Que du beau monde, je vous l'ai dit. Félix Guattari, philosophe politique, mais par connivence, psychanalyste et psychiatre, sont ses centres d'intérêt. Oui, la psychiatrie, qui est une spécialité médicale qui traite de la maladie mentale. L'étymologie du mot provient quand même du grec âme ou esprit. Littéralement. Médecine de l'âme. On en est loin, n'est-ce pas? Voilà ce qu'ont fait tous ces gens. Guattari est très proche du psychanalyste Jean Houry, encore un. Plus je regarde tous ces personnages, plus j'ai le sentiment que leur esprit déviant ont réellement créé la psychiatrie, parce qu'ils sont tous en lien les uns avec les autres par leur déviance abominable. Et puis on a Tony Duvert, écrivain. Louis Althusser, philosophe, docteur. Michel Beau, psychosociologue. Et puis on a le docteur Maurice M. Tous ces gens-là ont signé. Jean-Pierre Fay, docteur Pierrette Garou, psychiatre. Philippe Gavi, fondateur de Libération. Docteur Pierre Edmond Gay, psychanalyste. Docteur Claire Gelmal, psychologue. Docteur Robin Gelmal, psychiatre. Pierre Guillotat, écrivain, ayant inventé un monde de guerre et de sexe dans son livre qui avait été interdit, mais M. Mitterrand et M. Pompidou étaient intervenus en sa faveur pour qu'il soit publié. Vous voyez, ça remonte à loin. Pierre Anne, un des premiers militants du mouvement homosexuel en France. Jean-Luc Henning, écrivain ayant écrit Garçon de passe. Christian Aignan, qui a travaillé avec Gavi à Libération. Jacques Henry, critique romancier. Françoise Laborie, sociologue, membre du groupe d'études sur la division sociale et sexuelle. Madeleine Laïc, psychologue et écrivain. Georges Lapassade, philosophe. Raymond Lepoutre, écrivain. Michel Léris, Jean-François Lyotard, philosophe. Dionis Mascolo, militant politique de gauche. Et mari de Marguerite Duras. Tout va bien! Catherine Millet, critique d'art, femme de lettres, s'est fait connaître avec son livre « La vie sexuelle » de Catherine M. Et elle a travaillé pour un hebdomadaire dirigé par Louis Aragon. En décembre 2017, elle dit, je la cite, à France Culture, « C'est mon grand problème. Je regrette beaucoup de ne pas avoir été violée, car je pourrais témoigner que du viol, on s'en sort. Oui, ne vomissez pas tout de suite. Attendez encore un petit peu. Il y a pire. » Vincent Monteil, chef d'orchestre. Docteur Bernard Muldworf, psychiatre, encore un. Marc Pierret, écrivain, journaliste. Pour lui, les perversions sont des instincts refoulés, bien sûr. Tout est normal, évidemment. Anne Kerrien, sociologue, et ses recherches portent sur le genre ou la dualité sexuelle. Co-directrice de la revue Multitude. Je vous en prie, faites vos recherches. Griselidis Réal, philosophe. François Regnault, philosophe. Claude et Olivier Révaud-Dallone, philosophe. Christiane Rochefort, écrivain, étude de psychiatrie inachevée, mais qui finit quand même par faire psychologie à la Sorbonne. Gilles Sandier, ami de Jack Lang et de son vrai nom, Georges Salé. Pierre Samuel, mathématicien. Gérard Soulier, créateur de l'association Les Amis de la Terre. Vous connaissez Les Amis de la Terre? Eh bien, il a signé ce torchon. Victoria Teram, écrivain journaliste, et elle a écrit ceci dans un article nommé « Mœurs » pour Charlie Hebdo. Si vous aimez les petites filles et les petits garçons quand ils ont encore le cartable dans le dos, si vous les suivez dans la rue, si eux vous regardent et vous attendent à la station du bus, s'ils viennent s'asseoir juste en face de vous, s'ils frôlent vos genoux comme par mégarde, mais ne s'excusent pas, si vous les retrouvez à la sortie de l'école, si vous leur parlez, s'ils viennent dans votre chambre, si vous découvrez le ciel, les ciels de cuisses tendres et sans duvet, leur trouble est le vôtre quand ils vous disent tu et êtes leur ami confiance, leur ami plénitude. Et si vous allez ensemble au bois, à la clairière, derrière les volets où la lumière filtre à point, si vous les photographiez pour prolonger la vie, pour la fixer, parce qu'elle est fugitive et trop courte et que vous êtes trop amoureux, allez défendre Bernard de Jaguère, Jean-Claude Gallien et Jean Burckhardt, emprisonnés depuis 3 ans. Qui passe devant la cour d'assises de Versailles les 27, 28 et 29 janvier et risque 5 à 10 ans de réclusion criminelle pour amour à enfant. Mon Dieu, mais quelle honte! Hein? On peut le dire! Catherine Valabrègue, écrivain et militante pour le planning familial, qui faisait partie de la loge Arc-en-Ciel. Le docteur Gérard Vallès, psychiatre, encore un autre. Hélène Védrine, on ne l'a pas trouvée. Jean-Marie Vincent, philosophe, ayant écrit « Fétichisme et société ». Daniel Salel-Nave, écrivain membre de l'Académie française, président du Haut Comité des Commémorations Nationales, une énarque. Alain Cuny, acteur français. René Schreyer, universitaire, philosophe français, professeur. Il a consacré plusieurs études à Charles Fourier, aux problèmes de l'enfance, un apologiste de la pédophilie. On croit rêver. Jean Danet, un comédien français metteur en scène, directeur de théâtre. Patrice Chéreau, scénariste. Ou Daniel Guérin, ouvertement bisexuel, et il a même publié Kinsey à la sexualité et la sexualité. C'est vous dire. Francis Ponge, poète écrivain, qui non seulement a signé le 26 janvier 77 la Tribune, mais il a réitéré le 23 mai 77, toujours dans le journal du Monde, mais cette fois ce sont 80 intellectuels français qui réclamaient la décriminalisation aux législateurs. Les rapports sexuels entre adultes et enfants de moins de 15 ans. Parlons de Philippe Solers, littéraire. Salué par François Mauriac et Louis Aragon. Solers anime de 1960 à 82 la revue d'avant-garde Telle qu'elle, dans laquelle sont publiés des intellectuels, des écrivains français, comme Roland Barthès, Marcelin Plénier, tous ces gens-là anciens, participant au comité de lecture des éditions Gallimard, en tant que directeur de collection chez Gallimard. Et il a contribué à la publication des œuvres de Frédéric Berthet, de Jean-Jacques Schoul, Gabriel Mazneff, Marc-Édouard Nab, David Dinota, ouais, Yannick Enel. Solers signe le 26 janvier 77 avec une cinquantaine de personnalités un appel en faveur de trois hommes inculpés à l'attentat à la pudeur sans violence sur des mineurs de moins de 15 ans. Ce texte a été rédigé donc par Glazneff, qui ne fait pas du tout le mystère de ses goûts pour la pédophilie et l'éphébophilie. Non, c'est normal. Le 23 mai, il co-signe avec Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Roland Barthès, Simone de Beauvoir, Alain Robbe-Grillet, Françoise Dolto, ne l'oublions pas, et Jacques Derrida. Une lettre ouverte à la commission des révisions du Code pénal qui exige que soit abrogé, rien de moins, ou profondément modifié, en tout cas les articles de loi concernant le détournement de mineurs, dans le sens d'une reconnaissance du droit de l'enfant et de l'adolescent à entretenir des relations avec les personnes de son choix. Ben oui, pourquoi pas ? Interrogé sur ce sujet en 2001, il revient dans le journal Libération sur cette signature. Il y aura bientôt 30 ans que j'ai signé, j'avoue, n'en avoir aucun souvenir précis. Ah, il y avait tellement de pétitions à cette époque, on signait presque automatiquement. Et puis dans le texte que j'ai signé, et qui doit dater des années 74, 75, je ne sais plus, considérer que l'entière liberté des partenaires d'une relation sexuelle est la condition nécessaire et suffisante de la laïcité de cette, de la licéité de cette relation est effectivement extraordinairement naïf. Car qui juge de l'entière liberté des partenaires? C'est ne pas envisager qu'il peut y avoir un rapport de force ou de pouvoir. Certains aspects de la pétition sont complètement indéfendables aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne la signerai pas et je pèserai mes mots. Le 19 mars 90, sur FR3, il traite de connasse pour autant et de mal baiser Denise Bombardier, la chroniqueuse, romancière, essayiste de la télévision québécoise qui accuse. Trois jours après que celle-ci ait dénoncé la pédophilie de Gabriel Mazneff dans l'émission Apostrophe. Même Françoise Dolto demande que la loi décriminalise les rapports sexuels entre les adultes et les enfants de moins de 15 ans. À l'époque, de nombreux journaux se font l'écho de ce mouvement pro-pédo qui, aux Pays-Bas, est devenu même un mouvement politique, Libération en tête, avec même des petites annonces sans ambiguïté. Par exemple, en juin 78, le philosophe René Schreyer qui écrit « L'aventure pédophilique vient révéler quelle insupportable confiscation d'être et de sens pratique à l'égard de l'enfant les rôles contraints et les pouvoirs conjurés. » Cohn-Bendit raconte ses gestes sexuels sur des enfants dans le livre « Le Grand Bazar » publié en 75 chez Bellefond. Il y évoque son activité d'éducateur dans un jardin d'enfants alternatif à Francfort. Et sur le tableau d'Apostrophe, en 82, il déclare « La sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. Faut être honnête, j'ai travaillé auparavant avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Quand une petite fille de 5 ans commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est un jeu érotico-maniaque. » Il est quand même devenu député européen. Monsieur Cohn-Bendit va s'en défendre dans les colonnes de Libé en 2001. Mais bon, contre qui va-t-il se défendre? Qui accuse? Qui a envie de savoir, finalement? Les pétitions concernent la majorité sexuelle en France, liées à l'affaire de Versailles, qui avait été signée en 77, alors qu'une réforme du code pénal français était en cours de discussion au Parlement par divers intellectuels, personnalités et médecins. Toujours les mains, vous me direz. Dans le code pénal, l'atteinte sexuelle sur mineur était une infraction prohibant et réprimant les relations sexuelles, y compris consenties, entre un majeur et un mineur sexuel. Cet acte est considéré comme un délit. Dites-moi voir pourquoi on veut changer tout ça. Dites-moi voir. Qui s'arrange? Vous? Vous qui m'écoutez? Moi qui vous parle? Qui s'arrange? Alors nous avons Jean Veille, avocat réputé, très proche d'Olivier Duhamel, très un grand proche, qu'il a poussé, promu dans le joli monde parisien, à des hauteurs qui auraient pu, qui auraient dû le rendre inaccessible, presque intouchable. Bah, Jean Veille, fils d'une mère illustre, Simone Veille. Il savait tout ce que Camille Kouchner a écrit, tous les crimes dont Olivier Duhamel s'est rendu coupable sur son frère jumeau. Jean Veille savait depuis plus de 10 ans. Mais non seulement il a préféré se taire, mais il a offert à Olivier Duhamel des promotions inespérées, qui avec le recul ressemblent aujourd'hui à des tentatives désespérées de protéger son ami. Mais voyez-vous, ce vieux monde s'écroule. La parole se libère Elle vient fissurer, détruire toutes les choses derrière lesquelles les agresseurs essaient vainement de se cacher pour ne pas qu'on les atteigne. Et j'en veille à beau se défendre en arguant le secret professionnel, ça ne tient pas. Car ce secret ne s'applique pas que dans les cas d'atteinte sexuelle sur mineur. Comment cet avocat réputé pourrait-il ignorer? J'en veille n'a pas un mot, pas une pensée pour la victime, non, jamais, comme beaucoup d'autres vous le direz. Dans cette histoire, je n'ai strictement rien à me reprocher, j'ai respecté la loi, déclare-t-il, après que le journal Libération ait révélé son silence. Quelle loi, maître Veil? Le code d'honneur des salauds? La loi du plus riche? Cette histoire, comme vous l'appelez avec une pudeur puante, cette histoire est un crime sans cadavre, mais avec une victime détruite à perpétuité. Cette histoire est la mienne, elle est celle des milliers de femmes et d'hommes qui ce week-end, ont fait déferler la vague MeToo, inceste. Je ferai tout pour que cette vague vous emporte. Les agresseurs comme les complices, ceux qui font comme ceux qui savent. Je réponds à toutes les demandes d'interview pour la vague, pour que la vague ne retombe pas. Le Monde, Le Figaro, Ouest France, La Croix, Libé, toutes, pour que ça continue et que ça vous rattrape. Contrairement à votre mère, Jean Veil, le seul panthéon qui vous attend, c'est celui des lâches. Non-dénonciation du crime, c'est respecter la loi, écrit Camille Kouchner. Dans une lettre adressée à Marianne le 18 janvier 2021, Jean Veil admet être au courant des viols incestueux dont est accusé Olivier Duhamel par Camille Kouchner sur son frère jumeau. À la suite du scandale, le fils de Simone Veil préfère quitter le club privé du siècle dont il fait partie depuis plusieurs années. Oui, le siècle. Ah, vous ignorez peut-être ce qu'est le siècle. En qualité d'avocat, il aurait été au courant entre 2008 et 2011 des agissements. Mais il dit que ce secret professionnel des avocats est un secret strict. Et même si par la suite, j'étais plus son avocat, il a expliqué être toujours tenu au secret. Quelle bande de menteurs. Toute personne ayant connaissance d'un crime doit le dénoncer. Avocat, médecin ou quoi, tout le monde doit dénoncer. Étonnant qu'ils ne connaissent pas le droit, monsieur Veil. Vraiment, très étonnant. Alors il dit, je n'ai strictement rien à me reprocher. Il insiste sur le fait qu'il se trouvait lié par ce secret professionnel. Quant au soutien qu'il aurait pu apporter à Duhamel lors de sa candidature à la présidence du club en 2020, dont il fait partie depuis de longues années, il s'est défendu. Rien ne vous dit que j'ai voté pour lui. Rien ne vous dit que je n'ai pas tenté de l'en dissuader. Le siècle est une institution originale exemplaire. Oui, ben, le siècle, on sait ce que c'est. Hein. C'est un club élitiste fondé en 1944 par Bérard Kiellin, qui fait partie de ceux qui avaient signé d'ailleurs. Hein. Enfin, ils sont tous en lien. Vous pouvez regarder, prenez tous les noms que je vous ai donnés. Vous prenez Wikipédia et vous regardez, ils se connaissent tous, sont tous copains comme cochons. Et cette association du siècle regroupe tous les dirigeants politiques, économiques, culturels, médiatiques, dont le président est le Pierre Sélal, grand diplomate français, ambassadeur de France, représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles et président de la Fondation de France actuellement. Alors, ils se réunissent un mercredi par mois, vers 20h, au siège de l'Automobile Club de France, place de la Concorde. Alors, un petit cocktail qui se déroule comme ça, un petit cocktail, on échange et on se voit remettre une petite liste de convives avec leur CV, hein, des fois qu'on pourrait avoir des conflits d'intérêts. N'est-ce pas? Avec un peu de chance, on peut tomber sur des chefs d'orchestre, des psychiatres comme Daniel Zaghiri, journalistes comme Poivre d'Arvor, Chabot, Arlette Chabot. Ni une loge, ni une secte, nous dit l'écho. Non, bien sûr, ce sont tous des boy scouts, on le sait depuis très longtemps. En 2013, quand Gabriel Mazneff a reçu le prix Renaudot, aucun journaliste littéraire, pas une seule voix ne s'est élevée. Ouais, prix Renaudot pour un pédophile. Même pas vous, monsieur Lang, sur le bien fondé de cette récompense. Pourtant, vous avez été ministre de la Culture. Mais de quelle culture je parle? Dites-le-moi. Le New York Times, heureusement qu'on a des journalistes à l'étranger, évoque les circonstances de l'attribution de ce prix, relevant des conflits d'intérêts manifestes. En France, pas un journaliste. L'académicienne Dominique Bonnat, fauteuil 33, ça ne s'invente pas, a dit, je la cite, regretter les conséquences qu'a pu avoir la récompense attribuée à Gabriel Masneff, qui évoquait publiquement sa pédophilie. La pauvre, elle savait pas, Dominique Bonnard. Alors elle écrit, pour ma part, je ne sous-estime pas cette affaire Masneff. J'en ressens totalement la violence. J'en assume, je pense, que le centre du jury assume notre responsabilité dans cette histoire. Les conséquences de cette affaire ont été bien plus graves que ce que nous pensions. Donc elle t'avoue qu'elle a bien pensé que ça aurait un problème, mais enfin, elle a pensé pas que ce serait aussi grave, tu vois, c'est ça qu'elle te dit en fait, hein. Et pour ma part, dit-elle, je regrette vivement le mal que ce prix a pu entraîner, je regrette le mal que ça a pu faire à Vanessa Springora, et je regrette la blessure infligée aux gens qui se battent pour les assauts de défense de l'enfance. Et je regrette aussi le mal que ça a entraîné pour un écrivain qui s'est retrouvé au banc de la société victime d'une chasse à l'homme. En clair, elle regrette même pour Monsieur Masneff. Un écrivain qui s'est retrouvé au banc de la société victime d'une chasse à l'homme. Mais vous vous moquez de nous, Madame Bonnat, vous vous moquez franchement du peuple. Le pauvre, il a violé des victimes. Le pauvre. Et les gens l'ont su. Quel dommage. Ah ouais. Et vous êtes encore académicienne depuis 2013. Vraiment. Vraiment. Notre pays est gangréné. Mais à un point où je crois personne ne peut imaginer. Vanessa Springora, c'est elle qui signe au livre Le consentement. Elle sera la première à témoigner parmi toutes les adolescentes abusées, violées par Gabriel Masneff. Abusée, c'est un mot qui ne ressemble pas au viol, tu comprends? Violée, c'est violée. Tu vois? On abuse de quelqu'un pour lui voler de l'argent, mais violer quelqu'un, c'est coucher avec lui sans son consentement ou lui imposer une fellation. Tu vois? Ça, c'est du viol aussi. Parce que le viol, je le rappelle, est constitué par toute intromission, de quelque manière que ce soit, par quelque objet que ce soit. Donc arrêtez de dire abuser. Dites bien le mot violer. Aujourd'hui, ces actes intellectuels sont mis face à leurs responsabilités. Mais franchement, ce n'est qu'un début. La liste de tous ceux qui ont signé est longue. Je vous ai donné tous les noms ou presque. Et dans son livre Les Mandarins, de 1954, Simone de Beauvoir fait dire à un de ses personnages, je cite, les gens ont l'air de croire que le vide de leur cerveau leur meuble les couilles. Eh bien, moi, Madame de Beauvoir, je sais que vous n'êtes plus là, mais j'espère que dès là où vous m'entendez, à la lecture de ces tas de corrompus en lien les uns avec les autres, j'aurais aimé pouvoir vous répondre que le plein de perversité de leur cerveau leur permet de se vider les couilles sans dommage et à bon compte. Et que tout ce travail que vous avez fait pendant des années les uns avec les autres a bien œuvré depuis ces années. Puisque la sénatrice Annick Billon, présidente de la délégation aux droits des femmes, a déposé une proposition de loi cosignée par plus de 100 sénateurs de tous bords politiques, visant, paraît-il, à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels. La sénatrice a osé dire, et je la cite, il peut y avoir des enfants qui sont consentants à une relation sexuelle avec un adulte. Madame, je vous félicite. Savez-vous au moins de quoi vous parlez? Parce que dites-moi, quel enfant a envie de coucher avec un gros porc de 30 ans, 40 ans ou 50 ans? Ou même vous, Madame la sénatrice, oui, parce qu'il y a des femmes pédophiles. Connaissez-vous un jeune garçon de 14 ans qui aurait envie, franchement, de coucher avec vous? Quel enfant a envie et rêve de relation avec un adulte? Moi, ancienne victime de viol, je peux vous assurer du non-consentement de toutes les victimes et sans me tromper. Je peux vous donner les chiffres. Nous sommes 11 millions en France, tous âges et sexes confondus, à être des victimes. Nous sommes 11 millions sans justice, sans recours, sans aide et face à nos démons chaque jour. Et en plus, on doit écouter toutes vos conneries. Nous sommes 11 millions à nous taire, à écouter tout ce que vous racontez, à vous observer détruire les enfants. Pensez-vous que ça puisse durer encore très longtemps dans ce pays? Pensez-vous que les gens vont accepter encore très longtemps? Et vont-ils jamais demander justice à toute cette caste? Lorsque l'heure des jugements aura sonné, parce qu'un jour, et c'est déjà commencé, et je dis bien tout, va être dévoilé dans ce monde. Et comme vous le constatez, nul n'est à l'abri. Et oui, nous jugerons ce monde dévoyé auquel vous appartenez. Et je vous assure, Madame la Sénatrice, aucun ne sera oublié, j'en fais le serment. Car voyez-vous, il y a ceux qui violent, et puis il y a ceux qui le permettent, par leur silence ou par des lois, ou encore par des conflits d'intérêts. Et je viens d'en faire la démonstration. Je viens de faire la démonstration de la déviance du monde politique, du monde médical, du monde journalistique et du monde de la philosophie, madame. Mais je serais ravie de pouvoir parler avec vous et de vous apprendre beaucoup de choses sur la pédocriminalité, sur la pédophilie. Je vous remercie. Je vous demanderai vraiment à tous, ce live a beaucoup d'importance, je pense. D'abord pour les victimes, pour que les gens sachent vraiment ce qui se passe dans ce pays et comment tous ces pseudos intellectuels ont permis ce qui se passe actuellement dans notre pays. Tout ceci, et c'est une profonde déviance, et vous le savez tous, et cette déviance, en fait, a été instaurée, installée, elle a été permise et même consentie. Donc c'est très 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 important de partager ce live qui vient d'être fait sur la pédophilie, la pédocriminalité que subissent les enfants partout à travers le monde. Bien sûr, là, je parle de la France parce que c'est mon pays et parce que... mais c'est partout, c'est partout, c'est dans tous les pays. Alors, vous avez la pédophilie et la pédocriminalité, ce sont des choses différentes. La pédophilie, c'est en général dans la famille, à l'école, avec là où se trouve l'enfant. Et la pédocriminalité, c'est grâce à des réseaux. Et en France, bien sûr, il y a énormément de réseaux en France parce que vous savez que les sectes maçonniques… alors, on va encore me dire « Oh oui, mais tous les francs-maçons ne sont pas des… » Non, non, non. Mais par contre, tous ceux qui pratiquent le satanisme font partie de la maçonnerie. Tous les maçons ne sont pas des satanistes, mais tous les satanistes sont des maçons. Voilà. Donc, c'est très, très important que les gens sachent que c'est à un tel niveau dans notre pays, mais vraiment, c'est tout est gangréné, la police, la justice, tout est gangréné. Il y a une maman, je l'ai partagée, il y a une maman, je n'ai pas dû partager sur ma page, mais je vais vous le partager. Il y a une maman qui a sa petite fille qu'elle avait réussi à sortir des griffes du père qui la viole. Elle a 4 ans, cette petite fille. Elle a parlé aux maîtresses, elle a parlé à tout le monde. Elle a parlé à son avocate, elle a parlé au juge, elle a pu raconter. Et elle vient hier d'être remise au père. Il faut que vous sachiez que ça, c'est tous les jours en France, tous les jours. C'est très, très important de comprendre que dès que les mères dénoncent en France quelqu'un qui agit sur son enfant, que ce soit à l'école, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les réseaux d'amis, on perd ses enfants. Quand on veut déposer plainte et sauver son enfant, on remet l'enfant aux parents violeurs. Vous comprenez? C'est en France, depuis des années, c'est comme ça. Et ce n'est pas qu'en France. Moi, je ne vais vous parler que de la France, mais en France, c'est comme ça. Et donc, cette justice, elle est corrompue, mais corrompue à un point inimaginable. Quand vous entendez une sénatrice qui vous dit que c'est mieux pour protéger les enfants, parce que les enfants peuvent avoir envie et être consentants à un rapport sexuel avec un adulte, mais de quoi est-ce que l'on parle? De quoi est-ce que l'on parle? Isabelle, vous me dites comment est-ce que l'on peut changer tout ça? Déjà en prenant conscience. Déjà en vous engageant auprès d'une association comme Wanted Pédo, par exemple. Je vous dis Wanted Pédo parce que j'en fais partie, parce que je la connais bien, et parce qu'ils ont besoin de vous, parce qu'ils ont besoin, parce que dès que vous voyez des gens sur les réseaux sociaux qui partagent des photos d'enfants, vous ne devez pas partager vos photos d'enfants. Pourquoi, Clara Massoud, vous me dites, vous êtes finie? Vous bannissez. Mais la maman, elle est déjà avec Pointe de Pédo, elle a quand même perdu sa petite fille, elle est partie chez le violeur, c'est comme ça. C'est comme ça. Elle a tout, l'avocat a tout, le juge a tout. Donc, il y a énormément de réseaux pédos sur Facebook, il y a énormément sur TikTok, il y a énormément de vidéos sur YouTube, il faut les signaler. Quand vous les voyez, vous devez les signaler. Des enfants qui se mettent en scène, des petits enfants même, qui ont 7 ans, 8 ans, 10 ans, qui se mettent et qui dansent comme des adultes. Voilà quoi, c'est vraiment, vraiment, c'est une menace, mais c'est pas grave, je m'en fous de leur menace, j'en ai rien à battre. Qui viennent. Donc, tout ceci rapporte énormément d'argent. Ces gens qui pratiquent la pédophilie font des films, font une tonne de choses dans les réseaux pédocriminels. Ça permet, vous le savez maintenant, l'adénochrome, ça permet à ces gens-là d'obtenir, de rajeunir, d'obtenir du pouvoir. Ça soulage leur déviance. Voilà, c'est, je viens de le signaler, SanZ. Je viens, le live, SanZ, vous n'étiez pas là, mais je viens de faire le live. Donc écoutez le live, je viens de le signaler. Donc vous devez signaler sur le site du gouvernement. Merci Vouivre. Vous devez signaler sur le site du gouvernement. Dites-vous, quand je dis 11 millions de personnes, je ne me trompe pas de chiffre et je pense même que je suis en dessous de la réalité. Je pense qu'actuellement en France, on a plus de 11 millions de personnes victimes dans leur vie de pédophilie. Tous âges confondus, tous sexes confondus. Je suis formelle là-dessus. S'il y a autant de victimes, dites-vous bien qu'il y a autant de pédophiles. S'il y a autant de victimes, c'est parce qu'il n'y a pas d'arrestation, c'est parce qu'il n'y a pas de jugement. Donc, c'est très, très, très important de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre que la justice laisse faire, que la justice cautionne. Parce que moi, je dis, quand on laisse faire, on cautionne. Quand on ne juge pas, on cautionne. Quand un juge a tous les éléments et ne juge pas, il cautionne. Je suis désolée de le dire, mais c'est comme ça. Et ça, c'est tous les jours dans les tribunaux de France et de Navarre, tous les jours. Oui, c'est affreux, c'est terrible, mais c'est comme ça, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, il faut vraiment, vraiment que les gens le sachent. Il faut vraiment que les gens le comprennent. Je l'ai dit, l'association Wanted Pédo lutte pour ça, je l'ai dit. Enfin, lutte contre ça. 11 millions de victimes, ça fait combien de bourreaux, ça? Bah, 11 millions, à peu près. En pourcentage d'enfants qui disparaissent, moi je dirais qu'il y a au moins 10 à 15 000 enfants qui disparaissent tous les ans en France. On doit faire un live avec Maxime de Wanted Pédo, je pense qu'on va le faire bientôt parce qu'il a beaucoup plus de chiffres encore que moi. Il faut les afficher. Il faut absolument afficher ces personnages, effectivement. Il faut soutenir Camille Kouchner, soutenez Camille Kouchner, MeToo Inceste, par exemple. Voilà, c'est. Il faudrait afficher ça sur partout, partout. Donner des chiffres comme ça que vous affichez, que vous mettez dans les magasins, partout. Vraiment, il faut alerter, il faut secouer. Il y avait un site à un moment donné qui avait publié quelque chose il y a des années en disant notre arme, ce sont les imprimantes. Mais je crois que c'est vrai. Je crois que l'imprimante est une vraie arme parce qu'on peut tous décider demain d'imprimer les chiffres et de les poser partout et d'en parler autour de soi. Oui, Roger Olyndre sur Jack Lang, qui elle est terrible cette vidéo, absolument terrible. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des questions? Elena qui nous dit, j'étais victime d'attouchement, simulation de l'acte sexuel sur moi par mon oncle franc-maçon. J'étais en petite section, je n'ai pas osé en parler sur le coup, mais ça m'a hanté toute ma vie. Alors oui, parce que c'est très important aussi de comprendre que, évidemment, quand on est, sans parler du viol forcément, mais même un attouchement donne exactement, évidemment, les mêmes dégâts. Sylvie qui dit, moi, je ne laisse pas les enfants chez les copains et les copines. Mes enfants dorment chez moi et non pas ailleurs. Pas de sport en club. On va se balader en famille. Mon cerveau est en alerte. Quand on en parle, ça dérange la pensée unique. Bah oui, mais enfin, la pensée unique, c'est la pédophilie, pardonnez-moi. On est victime toute sa vie et on n'est puni que quelques mois. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que les forces des ténèbres sont plus fortes que la lumière dans ce monde? Parce qu'on les laisse pénétrer, parce qu'on se laisse avoir par ce genre d'ombre et parce qu'il faut justement, plus l'ombre est là, plus il faut briller, ce qui n'est pas simple, ce qui n'est pas le plus simple. Mais plus l'ombre est là, plus il faut briller. Patricia Duquesne qui me dit, j'ai posé une question. Ben, c'est bien Patricia, mais nous sommes 700. Alors si vous voulez la reposer, vous êtes autorisée. Voilà. Parce que si vous voulez, je ne suis pas Shiva. Hein, je n'ai pas 36 000 yeux. Je ne suis pas partout. Et il y en a qui disent que c'était ma grand-mère, donc censée être à l'abri. Comment a-t-on pu en arriver là en France? Eh bien, parce qu'on laisse faire. Comment peut-on menacer une personne comme Corinne qui a le courage de dénoncer ses monstres? Eh bien, parce qu'on est pédophile et qu'on ne supporte pas que quelqu'un en parle. Ça dérange, ça dérange. Si vous voulez que je voie vos questions, déjà mettez un point d'interrogation parce que c'est important. Romain Bonneau, qui sourit. Je ne sais pas si on va le garder longtemps. Juge des enfants marseillais, j'ai pris 18 mois d'AEMO car j'ai accusé le père de mon fils, commandant de police. Eh oui, alors un commandant de police, par essence, il est franc-maçon. Hein. Alors là, dès que vous passez le stade de capitaine, c'est vous êtes tout de suite récupéré. Ah, Sylvie qui nous dit, j'ai été élevée en centre de rééducation avec des bonnes sœurs, donc je connais la maltraitance. Eh oui. On n'en parle pas souvent de la maltraitance, hein, mais ça fait autant de dégâts, bien évidemment. On est dans une culture de culpabilisation. Oui. Comment en finir avec ça et protéger nos enfants? Bah déjà, vos enfants, soyez très vigilants parce qu'à l'école, je vais vous parler par exemple de l'affaire de Montreuil. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens de Montreuil qui sont là ce soir, mais je sais que de temps en temps, j'ai des papas et des mamans. C'est 10 enfants qui ont été violés, abusés violemment, très sexuellement, dans une école. Le monsieur les emmenait chez eux. C'était un monsieur d'étape. D'accord? Et il les emmenait chez eux. Voilà. Personne ne se rendait compte, hein, c'est incroyable. Et les enfants ont fini par parler. Seulement 4 parents ont déposé plainte. Les enfants ont une maladie sexuellement transmissible, l'anus déchiré, affaire classée sans suite 2 fois. Voilà. Voilà notre justice. La majorité des abus est causée au sein de ma famille et que la seule solution est de placer les enfants dans les établissements où les enfants seront abusés. On fait quoi là? La majorité des abus sexuels sont causés, pas forcément qu'en famille, c'est faux. Elles sont causées au sport, elles sont causées à l'école, par un voisin, par une nounou. Voilà, c'est pas que en famille. La majorité, c'est un oncle, une tante, le parrain, le grand-père, la grand-mère, voilà, meilleur ami. C'est comme ça. Ce n'est pas forcément en famille, le père ou la mère. Ça arrive, évidemment, ça a des viols incestueux. Mais là, ça peut être posé. Tous les cas de pédophilie n'existent qu'avec des gens que l'enfant connaît bien, très bien. Et ça ne peut avoir lieu que parce que l'enfant connaît très bien son violeur. Et ça a lieu parce que l'enfant ne va pas se méfier, ne va pas se défendre. Et comme il ne va pas supputer une seule seconde ce qui peut lui arriver, quel que soit son âge, eh bien, au moment où les faits vont se produire, où le geste va changer et basculer, l'enfant va tellement être tétanisé, c'est ce qu'on appelle l'état de sidération. Vous pouvez aller voir sur les vidéos, j'en ai déjà parlé. Et je l'ai expliqué, j'ai fait 3 vidéos d'explication qui sont importantes. Et l'état de sidération va faire que l'enfant ne dira rien. Et comme il ne dit rien, il se sent coupable d'avoir accepté. Et c'est ce que nos politiciens appellent le consentement, alors qu'ils savent parfaitement ce qu'est l'état de sidération. Alors qu'ils savent comment ça fonctionne, ils ne forment ni les policiers, ils ne forment ni les psychiatres, ni les psychologues. C'est volontaire. On instaure, et c'est ce que l'on veut, Sodome et Gomorre. Ben, il y a toute la liste des francs-maçons en France, hein. Ils sont tous là, hein. Ils sont tous connus. Alors, Autogire, vous dites, là je ne vous cite plus les francs-maçons sataniques qui violent des enfants, connaissent les enfants. Non, cela c'est autre chose. Là je vous ai parlé de pédophilie, je ne vous ai pas parlé de pédocriminalité. pédocriminalité, soit on enlève des enfants et puis on les remet dans les loges, voilà, parce que ça se passe dans les loges, pas toutes les loges, mais certaines loges. Ça se passe aussi avec des gens qui, des enfants, des parents qui vendent leurs enfants. Ils vendent toutes les semaines. Toutes les semaines, ils vont vendre leurs enfants. Il y en a qui sont enlevés et que les parents ne reverront plus. Alors, on les retrouve jamais. C'est à peu près 10 à 15 000 enfants en France par an. Ça va dans les réseaux. Ces enfants-là vont dans des réseaux pédocriminels. Ceux-là, en général, on ne les reverra jamais. Passé 10, 12 ans, ils sont tués. Après, vous avez les enfants que les parents vendent, comme dans l'affaire Outreau, comme dans toutes ces affaires. Okay, ces enfants-là ont été vendus par les parents qui gagnent de l'argent. Et bien sûr, vous imaginez bien que ceux qui viennent violer ces enfants-là ont beaucoup d'argent. C'est pas l'ouvrier du coin, tu penses bien. Peut-être avez-vous déjà répondu par le passé. Alors, attendez, je vais essayer. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez laisser juste apparaître les questions? Parce que vos commentaires, c'est gentil, mais moi, je voudrais pouvoir répondre aux questions, s'il vous plaît, si vous pouviez être raisonnable. Comment? Quand un des deux parents est incestueux, comment l'autre parent peut protéger l'enfant étant donné qu'il ne faut pas aller voir la police et la justice? J'ai pas dit qu'il fallait pas y aller. J'ai pas dit ça. Je dis méfiance. Et moi, je vous le dis, si ça m'était arrivé, sachant ce qui se passe, c'est clair que plus jamais on me retrouve. Je prends mes enfants et je m'en vais. Et on ne me retrouvera pas. Voilà. Je le dis parce qu'actuellement, c'est ce que j'aurais fait. De quoi? Je vois pas les questions. Non, j'en vois, mais pas toutes. J'étais souvent dehors pour jouer à plusieurs hommes, inspiré le danger et le dégoût. Je sentais quelque chose d'horrible sur moi, de pervers. J'étais choquée du nombre d'hommes. Oui, je sais pas ce que vous voulez dire. Ah oui, bien sûr qu'il faut rétablir la peine de mort parce que sinon on va jamais s'en sortir, tu veux, hein. Parce que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ces gens-là, ils sont irrécupérables, hein. Faut pas venir me jouer la messe, me la raconter. Ça, on a déjà essayé sur des Discords. C'est irrécupérable. C'est une déviance irrécupérable. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Comment affronter sa propre peur ayant vécu un attouchement? Merci. Il faut se faire aider par un psychothérapeute ou par quelqu'un qui peut vous aider, qui est thérapeute. Et qui sait de quoi il parle, parce que ça, c'est pareil. Très peu sont formés, très, très, très peu sont formés. Moi, c'est mon métier. Voilà, j'aide les victimes de pédocriminalité, de pédophilie. Pas que, mais c'est aussi, j'en fais partie. Patricia, mon fils peut encore entamer une procédure. Il était violé à 4 ans. À 4 ans, il y a 20 ans. Oui, c'est 20 ans après la majorité. Vous avez. À partir de la majorité, vous avez 20 ans pour aller déposer plainte. Et je vous conseille de le faire pour tous ceux qui ont été victimes. Et même si vous avez dépassé, et c'est ça qui serait très important en France, vraiment, si les victimes pouvaient trouver le courage d'aller déposer plainte, qu'elles soient 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans après leur majorité, ça n'a aucune importance parce que d'abord, on est obligé de prendre votre plainte. Déjà, d'une part, c'est obligatoire. Vous écrivez au procureur de la République et vous dénoncez les faits. Mais si par million les victimes faisaient ça en France, je pense que ça poserait quand même beaucoup de questions. Il faut que les victimes se lèvent. Il faut que les victimes racontent, prennent leur vidéo, se mettent en vidéo et racontent ce qu'on leur a fait subir et qu'il n'y a pas de justice. Il faut vraiment, c'est que, il y a que les victimes qui peuvent changer ça aujourd'hui. Partir, c'est laisser le champ libre aux pédophiles. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ou alors il va falloir qu'on fasse des milices. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Une pétition ne sert strictement à rien. Ça fait des années que les pétitions ne servent à rien. C'est comme les manifs, c'est exactement pareil. Alors, ne pouvons-nous pas nous regrouper en masse pour nous connaître ces lieux et faire des descentes? Ah bah c'est facile, vous faites les loges maçonniques, vous essayez de repérer dans les châteaux, dans les trucs, ils ont des soirées de parties fines régulièrement, régulièrement. Vous savez? S'il y a des loges et s'il y a des enfants sacrifiés, c'est parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens qui le permettent par leur action. Faut les prendre, les enfants, faut les stocker, faut les cacher. Vous voyez, enfin, ça fait beaucoup de monde qui savent. Non, non, le problème, il n'est pas de prouver, MDF. Le problème, il y a des enfants qui parlent, il y a la parole de l'enfant. Quand on a 4 ans et qu'on dessine des sexes et qu'on raconte des scènes, je ne pense pas qu'à 4 ans, on soit capable de le faire si on ne l'a pas vécu. Donc, à un moment donné, si vous voulez, les preuves, elles sont toutes là. Il y a plein de fois où on a les preuves et il n'y a pas de condamnation. Donc, ne me dites pas, il faut des preuves. Des preuves, on en a à l'appel. Et pour autant, on a des médecins légistes qui constatent le viol. Donc, on nous avait dit que dans l'affaire de Montreuil, il avait été dit que les enfants avaient essayé de se mettre des petites voitures dans l'anus. Où est-ce qu'on a déjà vu jouer ça? Eh bien, ça, c'est ce qu'un juge va vous opposer. C'est tout et n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Alors, Twilly Najaté, vous dites ces enfants, leur avenir est foutu. Ben, j'espère que non, parce que je suis une ancienne victime de pédophilie, n'est-ce pas? Et je me suis soignée et je vais très bien. Et je suis la preuve qu'on peut guérir et je suis la preuve qu'on peut s'en sortir. Mais oui, ça prend du temps. Oui, c'est très long. Mais on doit dire aux victimes qu'on peut s'en sortir et qu'on peut témoigner, qu'on doit témoigner et qu'on doit dire ce qu'on nous a fait vivre. La peine de mort serait-elle curative? Et j'en ai rien à foutre, moi, qu'elle soit curative, si tu veux. C'est le seul moyen de les éliminer et qu'on n'en ait plus sur cette planète. Il va falloir à un moment donné qu'on nettoie, hein, qu'on nettoie le marais, qu'on l'assèche, le marais, totalement, tu vois? Parce qu'on ne peut pas les guérir. Donc, tu veux qu'on en fasse quoi? Tu veux les prendre chez toi? Comment ça se fait qu'il y a autant de pédophiles? Ben parce qu'il n'y a pas de condamnation, je viens de le dire, et encore, et encore, et encore. Parce que je viens de vous donner tous ces politologues, tous ces journalistes, tous ces psychiatres, tous ces psychologues dans le live que j'ai fait tout à l'heure, qui ont signé pour qu'il n'y ait pas de condamnation pour un abaissement, parce que c'est tellement bien, la sexualité avec un enfant. Et ces gens-là, ils vous ont vendu de la merde dans la tête, parce que ces gens-là sont des philosophes, figurez-vous, et qu'ils utilisent ce qu'on appelle des mots controversés, en fait. Ils font de la contre-information, ils font de l'inversion des mots, ils font de l'inversion des apprentissages, n'est-ce pas? C'est pour ça que vos instits, vos profs se retrouvent avec comment s'appelle, des cours sur la sexualité que vos enfants n'ont jamais réclamé. Ils en ont rien à foutre. Ils n'ont pas besoin d'apprendre à l'école la sexualité. Depuis quand on va à l'école pour apprendre la sexualité? Et quand on le dit, on dit, ah ben non, c'est pas vrai. Ben si, c'est vrai. Alors maintenant qu'on a des cours à l'école, on a de plus en plus d'enfants qui se font attoucher. Ben oui, parce que évidemment, ils veulent aller voir ce qui se passe, comment ça fonctionne. Ah, Fafa Dadou, j'espère, j'espère, j'espère. Pensez-vous que leur déviance relève d'une maladie mentale? Non, pas du tout. Non, pour moi, ils savent très bien ce qu'ils font. T'inquiète, ils savent très bien ce qu'ils font. C'est une déviance, c'est une déviance. Alors, je voudrais aussi vous dire que à chaque fois, on nous met en exergue. Oui, alors tous les gens qui ont été abusés, évidemment, ils abusent les autres. Non, ça aussi, faut arrêter. Ça, c'est ce qu'on vous vend dans les tribunaux. C'est faux. C'est archi faux. La plupart des victimes ne réitèrent jamais tellement elles ont souffert. Je voudrais une seconde chose. Dans les tribunaux, à chaque fois, on vous dit, oui, alors il faut un procès en huis clos. Non, pourquoi un procès en huis clos? Pourquoi? Pour que vous ne sachiez pas qu'il n'y ait pas de condamnation, qu'il n'existe pas de condamnation. Il faut arrêter les procès en huis clos. Il faut réclamer des procès ouverts, filmés, parce que c'est comme ça qu'on dira aux gens ce qui se passe. Béatrice qui dit notre vie n'est pas foutue, punaise, il m'a fallu 40 ans pour pouvoir en parler. Oui. Dida, c'est pas une sexualité libérée. Hein. Non, 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 c'est pas ça une sexualité libérée. Vous voyez, tout ça, c'est de l'inversion. Hein. On mélange. Hein. Il faut des jugements publics. Oui, il nous faut des jugements publics. Trump, il est en train de nettoyer le marais, comme il l'avait dit. Alors, je sais qu'il y en a qui y croient pas et tout. Je suis pas là pour polémiquer là-dessus parce que je m'en fous complètement de ce que vous croyez ou de ce que vous croyez pas. Je vous le dis tout de suite. Le truc, simplement, c'est que il faut que vous regardiez ce qui se fait. Allez chercher, allez regarder, faites vos liens et après vous venez me parler. Vivre, vous dites, mon ex-mari a abusé de notre fille et on n'en parle pas des mères, ouais, qui sont bousillées. Oui. C'est l'horreur absolue. Je sais, je sais. C'est horrible. Connaissez-vous le clip de Mylène Farmer, Plus grandir dans ce viol, pédophilie dans... Oui, mais Mylène Farmer, elle est sous MK Ultra. Hein. Mylène Farmer, elle est passée par les réseaux. Faut le savoir. Vous le savez, je pense. Céleste, oui, sexualité libérée avec des enfants, sérieux, qui ose dire cela? Si les gens essayent de parler, ils sont maladroits parfois parce qu'on n'entend pas le son. Enfin, et bon, je pense que c'est maladroit. Véronique qui nous dit, moi j'ai dû écrire un bouquin pour me surmonter tout ça. Bah merci, vivre. Mais vous voyez, là, il y a beaucoup dans le chat. On va prendre deux petites menottes pour ceux qui sont d'accord. Quels sont ceux dans le chat, s'il vous plaît, qui ont été victimes d'attouchements ou de viols dans leur vie? Si vous pouvez le mettre juste pour que les gens voient le nombre de personnes. Simplement, vous mettez moi, moi, moi. Ou mon frère, ma sœur, mon père, ma mère. Peux-tu nous faire un sourire? Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, je ne peux plus compter, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Tu les comptes? Voilà. Je voulais juste, je laisse les victimes dire moi, donc je vais dire, je vais m'inclure, puisque je suis victime deux fois. Voilà, pour que vous imaginiez, rien que dans le chat, toutes ces victimes courageuses qui osent vous dire moi, 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 moi. Je l'avais déjà fait une fois. C'est toujours très émouvant, je suis toujours très émue. Quand je vois ça veut dire qu'on est tellement, tellement, tellement nombreux, tellement nombreux. C'est insupportable. C'est insupportable. Et si je demande à ces mêmes personnes si elles ont déposé plainte, elles vont vous dire non. La plupart vont vous dire non. Et celles qui l'auront fait pour leur enfant vous diront qu'elles n'ont pas obtenu gain de cause. Voilà. Il y a aussi les gens qui ont été victimes. Et qui l'ont oublié. Alors, oublié. C'est tellement douloureux qu'il y a une espèce de déni qui se met là et qui peut se réveiller à n'importe quel moment. C'est aussi ce qui fait que beaucoup de victimes n'osent pas déposer plainte parce qu'elles ont l'impression d'être coupables. Un non-lieu pour chaque. Alors moi, quand j'ai déposé plainte, je voulais vous dire, quand j'ai déposé plainte, il y avait prescription. Il y avait prescription depuis plus de 10 ans. Mais j'ai quand même déposé plainte. Et la personne a été entendue. Elle n'aura rien. Mais elle a fini par mourir d'un cancer 2 ans plus tard. C'est une très bonne chose. Voilà, ça vous fait voir tous ces gens. Qui sont victimes. C'est énorme. On est 952. J'ai perdu le compte, mais je pense qu'on est à plus de 150 ou 170 personnes qui ont dit moi. Madame Bellon, au tribunal des juges pour enfants de Marseille, tout s'est retourné contre moi, nous dit Isabelle. Madame Bellon, juge à Marseille. Voyez, vous me demandez des noms, on en a plein des noms, hein. On en a plein. Si le coupable est décédé, non. Le crime s'éteint, en fait. C'est l'extinction de l'action publique. Coup de fil. Excusez-moi, je ris, mais c'est pas. Voilà, c'est un rire jaune, en fait. Il y avait plus de 10 personnes pour la même plainte, reçu 400 francs, personne connue et protégée. Voilà. Donc, ben, on arrête là. Oui, il faut afficher les noms. Bien sûr qu'il faut afficher les noms. Il faut parler de Duhamel, il faut parler de tous ces gens. Monsieur Jack Lang avait eu des problèmes au Maroc, notamment. Et tous ces gens-là qui ont signé comme Bendit, tout ça, c'est là. Et il y en a plein d'autres aujourd'hui. Et dites-vous bien que tous ces gens-là sont tous et se connaissent tous les uns avec les autres parce qu'ils font partie souvent des mêmes loges. Et ils se protègent. C'est comme ça que ça marche. C'est à ça que sert la franc-maçonnerie. Uniquement à ça. Envie de faire justice soi-même. C'est compliqué, vous savez, autogire, de faire justice soi-même, tant qu'on est coupable. Chaque victime qui a subi a l'impression que c'est de sa faute ce qui s'est passé pendant des années et des années. Donc, croyez-moi, les pédophiles ont de bons jours devant eux. Alors, l'amnésie, c'est, il y a des victimes amnésiques, d'accord? Donc, ça, c'est important d'en parler un petit peu. Ça peut revenir sous la forme d'une odeur, ça peut revenir sous la forme d'une image de quelqu'un qui nous rappelle l'autre, on croise une personne. C'est très, très, très violent. C'est rare, mais ça peut arriver. Oui, tout à fait, Francis. Tout à fait. Okay. Avez-vous des questions? Gérard Fauré, il a pas mal au. Hein? Vous avez lu son livre à Fauré? Vous savez ce qu'il a fait? Quand il passait la drogue dans des corps d'enfants, c'est écrit dans son livre. Posez-lui la question. Alors non, je ne peux pas. Swad, le plan nous a fait croire que Trump était notre sauveur. Non, le plan nous a absolument rien fait croire. D'ailleurs, personne ne nous a jamais rien fait croire. Simplement, quand vous êtes à des telles hauteurs, vous me demandez là actuellement comment on peut lutter contre tous ces pédophiles et contre tous ces satanistes. Vous croyez que vous, avec vos petites mains, vous allez y arriver alors que tout le monde les croit? Si on n'a pas quelqu'un qui est très haut placé et qui commence à nettoyer le marais, pensez-vous sérieusement qu'on peut y arriver? Merci la vie. Je ne sais pas si elles sont humaines. Non, de toute façon, pour la plupart, vous pensez bien que les gens qui sont dans le cœur et qui sont dans l'amour et qui protègent la vie ne vont pas agir de la sorte. C'est impossible, c'est juste impossible. Donc, aujourd'hui, on sait très bien que la moitié de la planète ne l'est pas. Elle n'est pas humaine. Soit des portails organiques, soit voilà, c'est ce qu'ils ont fait aussi au fil des siècles. Il faut le comprendre. Avez-vous des questions? Parce qu'on s'arrêtera là. Voilà, un cul pour les questions. S'ils avaient dû tuer Trump, il l'aurait déjà fait, ne vous inquiétez pas. Ah oui, en Turquie, un homme a tué le violeur de sa fille en place publique. Ouais. Ouais, moi, j'aimerais beaucoup être en Turquie, je vous le dis tout de suite. Ça viendra. Je pense qu'à un moment, la justice va se faire. Hein. Je pense. Il faut qu'elle se fasse. Sandra, vous dites, j'ai dénoncé mon oncle à 40 ans. J'avais 6 ans. Il a reconnu, mais je n'ai pas porté plainte. Temps dépassé. Une partie de ma famille ne me parle plus. Voilà. Ça, c'est important de le savoir. Effectivement, quand on dépose plainte, on a une scission. La famille se casse en deux, qu'on ne sait pas en trois ou quatre. C'est mon cas. Ça a été mon cas. Pas avec mes parents ni rien, mais ça a été mon cas avec certaines personnes de ma famille et je m'en porte extrêmement bien. Parce que dans ma famille, il y a eu quatre enfants qui ont été violés. À chaque fois par des personnes de l'extérieur, en fait. Quatre enfants, je parle de mes cousins. Et ces quatre enfants, je suis la seule, en fait, qui a déposé plainte. Je suis la seule qui a remué la merde et qui a osé remuer la merde. Et ça dérange. Ça dérange parce qu'on veut mettre des couvercles dessus. Et franchement, c'est quand même embêtant de faire voir que nos parents ont peut-être échoué. Alors, ils n'ont pas échoué, c'est eux qui le pensent. Mais vous savez, le pédophile, il est très intelligent et très malin dans ce qu'il fait. C'est-à-dire que la manière dont il s'y prend, et nos parents, finalement, c'est très, très dur. Quand on est parent et qu'on a un enfant victime, c'est super dur. Voilà. Donc, j'ai un trou, pardonnez-moi, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc les familles, c'est très souvent qu'on perd une partie de sa famille. Voilà. Et franchement, je m'en porte super bien aujourd'hui. Voilà, il ne manque pas du tout. On est seul quand on dépose plainte. Vous savez, on est très, très seul. On est seul quand on fait cette démarche. On est seul parce que souvent, on ne peut pas le raconter. On ne va pas le raconter à nos parents. Enfin, moi, personnellement, je n'aurais pas raconté. Ils savent ce qui m'est arrivé, bien sûr. Je ne suis jamais rentrée dans les détails pour protéger ma maman, pour protéger mon papa. Je ne voulais pas qu'ils souffrent de ce que j'avais souffert. Et donc, j'ai jamais raconté. Je n'ai jamais pu raconter à ma maman. Je n'ai raconté qu'une fois, et c'est quand j'ai déposé plainte. Voilà, pendant 4 heures et demie. Après, différents thérapeutes pour se guérir, parce que faut comprendre son histoire, faut comprendre ce qui s'est passé, il faut le comprendre sur tous les plans. Hein. Il y a le plan mental, psychologique, mais il y a la mémoire aussi du corps. Le corps se rappelle de tout. Donc, il faut vraiment travailler sur tout, et c'est un sacré gros travail à faire. Mais on y arrive, ça se fait. Bon, alors, si vous pouvez éviter de parler d'alliance humaine, ça serait très bien, parce que lui et rien, c'est la même chose. Tout s'est corrompu. Je veux même pas en entendre parler. Tous ces gens qui disent savoir, pas savoir, et qui prennent de l'argent et qui, en fait, on n'apprend rien avec ces gens-là. Le temps viendra quand vous saurez. Et pour les enfants dans les tunnels. Mais vous parlez des enfants dans les tunnels, des enfants violés, il y en a partout, madame. Partout, il y en a. Partout, malheureusement. Léon, vous me demandez ce que je pense de l'abaissement des enfants de 15 à 13 ans. J'ai fait un live juste avant et je l'ai expliqué justement comment tout ceci était possible. Comment prévenir les enfants? Alors qui, s'il te plaît? Je ne sais pas de qui vous parlez, Lolo, quand on porte plainte toute la famille qui ne veut pas y croire et ne vous parle plus. Oui, la famille ne veut pas y croire. C'est comme ce qui se passe sur cette planète. Ils ne veulent pas y croire. Donc on est seul. C'est tout à fait ça. Le déni. Si on pense que sa mère était victime pendant son enfance et m'a repoussée à cause de ça avec la plainte, est-ce que ce type d'événement peut arriver à nouveau dans une famille? Oui, tant qu'on n'a pas fait le travail de guérison pour soi, en fait, et si on met des enfants au monde, et ben, effectivement, il y a comme une espèce de transmission, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Et même, j'ai envie de vous dire que c'est plus grave à la troisième génération, parce qu'il y a vraiment cette mémoire que l'enfant porte et que l'enfant risque d'être vraiment victime. C'est pour ça que c'est très, très important d'en parler à vos enfants, et c'est très très important avec les mots selon l'âge, vous lui expliquez, et c'est comme ça que vous allez pouvoir le protéger en lui disant de toujours, s'il y a quoi que ce soit, venir vous en parler, que personne n'a le droit de le toucher. N'obligez jamais votre enfant à embrasser des gens qu'il ne connaît pas. Et si votre enfant a un recul pour embrasser quelqu'un, soyez vigilant, méfiez-vous. Si un ami passe, un collègue, n'obligez pas votre enfant à embrasser, parce que vous ouvrez des portes en fait. L'enfant d'instinct sait s'il a envie d'embrasser ou s'il n'a pas envie d'embrasser. Les enfants, ils voient tout. Sachez qu'un enfant, ça se rend compte de tout. Donc, soyez très, très vigilants avec vos enfants. Voilà. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Alors, Timinello, le confinement qui arrive, parce qu'il aura lieu, je pense, le 1er ou le 6 février, effectivement, il aura lieu, mais s'il est comme novembre, ça va. S'il est comme ce qu'on a vécu au départ, je ne sais même plus les dates, tellement on a ras-le-bol, en fait. C'est parce que je pense qu'on nourrit les autres là-haut qui ont besoin de manger là, le Brassax. Voilà, je pense que c'est ça. Ou peut-être l'armée qui peut intervenir, je ne sais pas. Je ne demande que ça. Alors, oui, l'enfant est libre de son corps, il lui appartient. Plus vous rendez votre enfant autonome pour se laver, pour faire les choses dans sa salle de bain, il ferme la porte, plus vous lui apprenez à se respecter, en fait. Voilà, et c'est très, très important. Oui, c'est vrai, je prends souvent la vie de mes enfants, me dit Karima. Alors, Milibri. Miami, merci à vous. Ok, plus de questions? Ouais, on essaye de vivre, hein, Corinne Arnaud. C'est vrai qu'on vit, mais c'est vrai que c'est dur quand même. Ça, je pense que depuis un an, on en a quand même un peu ras-le-bol. Franchement, on en a ras-le-bol. Pourriez-vous un jour faire un live sur le sujet de l'amnésie traumatique, puis les façons de faire de comprendre son histoire? L'amnésie traumatique, je viens d'en parler, hein, c'est on oublie tout. C'est une façon de se protéger, sinon votre cerveau il disjoncte. J'en ai parlé dans d'autres lives, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous allez chercher sur la chaîne. J'ai fait trois lives pour parler exactement de comment ça marche. Comment prévenir des agressions sexuelles à l'école entre enfants? C'est très très compliqué parce que l'école c'est encore un autre problème. C'est difficile. C'est le respect de l'enfant, en fait. C'est le respect de lui-même. C'est ça, c'est vraiment le respect, quoi. Bien lui expliquer que personne n'a le droit de le toucher, même ses petits copains. Et on en est rendu à dire que même son petit copain ne peut pas lui toucher son zizi. C'est quand même, on est dans une autre dimension, hein. On est dans une autre dimension. Ok. Bon, il n'y a plus de questions. Voilà. Bon. On va arrêter pour ce soir. Je pense qu'on a dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à vous tous. Merci à mes modérateurs. Merci à tous d'avoir été présents ce soir. Partagez le live. Celui-ci, non, je m'en fous, mais l'autre surtout. Je pense que c'est important que les gens fassent les liens de tout ça et comment on en est arrivé là par toute cette corruption gangrénée partout, dans tous les milieux politiques, dans tous les milieux médicaux, les milieux de la psychiatrie, psychologie, de tous ces gens-là ont fait un travail de sape et continuent de faire ce travail de sape. Donc c'est très, 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 très important. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir à tous. Bon courage.